2. Les exigences du corps. Mais revenons-en à des facteurs plus physiques. En quelques années, j'ai dépensé toutes les réserves de mon corps. Le corps a des exigences minimales qui n'ont rien à voir avec la raison. Il faut les combler pour survivre, c'est tout. Il faut des protéines, des lipides et des glucides. Il faut un minimum de calories chaque jour. Il faut au moins les 8 acides aminés de base sur les 22 utilisés par le corps humain. Les 14 autres peuvent être fabriqués à partir de ces 8 acides aminés essentiels. Il faut aussi pouvoir dormir et se reposer suffisamment. Les yeux peuvent souffrir grandement des carences vitaminiques, surtout du manque de vitamine A, normalement fabriquée à partir de la bêta-carotène par l'organisme humain. Cela peut exiger un plus grand nombre d'heures de sommeil pour minimiser les troubles des yeux ainsi provoqués. Un bon apport d'iode est également essentiel pour produire de la chaleur et l'équilibrer dans le corps. On obtient ainsi une stabilité et une régularité dans l'organisme. Autrement, on est vite dérangé et tiraillé, même lorsque les autres sont à leur aise. Sinon, on aurait besoin d'une température ambiante supérieure de quelques degrés à la normale. 3. Les dépenses au minimum pour le corps. En temps de survie, il n'est pas question de faire du sport ou de l'exercice physique. On manquerait vite de carburant. La fatigue se ferait sentir rapidement, en supposant qu'elle ne serait pas déjà présente. Dans de telles conditions, il faut réserver ses forces pour préparer les repas, faire les emplettes essentielles et travailler. Les distances doivent être parcourues à pied, cela va de soi, sauf pour des raisons exceptionnelles. Les longs trajets sont éliminés. Si on tombe sur le chômage, il vaut mieux avoir un téléphone et ne pas prendre de rendez-vous trop loin. L'extrême pauvreté est un lourd handicap pour chercher un emploi. Dans de telles périodes, il arrive souvent qu'on ne ressente pas la faim, car on est probablement sous le seuil d'un apport énergétique quotidien minimal qui, justement, permettrait une telle sensation. On ne souffre donc pas de la faim et on peut penser à autre chose. On peut se sentir bien, mais n'afficher aucun sourire, car le manque d'énergie fait son œuvre au niveau des muscles faciaux, par économie sans doute. Ainsi, un air triste n'indique pas nécessairement de la tristesse. L'énergie du corps se réserve pour les fonctions les plus vitales. On parle moins aussi, car c'est là une grande dépense d'énergie. C'est sans doute mieux pour tout le monde, pour ceux qui nous entourent, quoi. 4. Les réserves du corps. Quand le corps est alimenté avec un surplus, il se fait des réserves de toutes sortes en prévision de périodes de pénurie ou de famine. Même les muscles servent de réserve protéinique. Les lipides et les glucides sont stockés un peu partout très facilement chez la plupart des humains. Mais tout cet emmagasinement est quand même limité et finit par s'épuiser plus ou moins rapidement selon l'importance des carences subséquentes et de leur durée. Ainsi, en quelques années, j'ai perdu une quinzaine de livres de muscles et de graisse, et peut-être aussi de constituants osseux comme le calcium. 5. Le temps de sursis. On peut quand même vivre avec peu et avec moins que le minimum d'entretien de l'organisme. Mais il viendra un temps où certains troubles apparaîtront pour annoncer un manque important de certaines substances et des dommages faits ici et là dans l'organisme en sursis. On peut s'en accommoder s'ils sont minimes, mais cela est possible pour une courte période seulement. Petit a, une limite. Lorsqu'on ressent les mêmes troubles qu'une personne atteinte de la maladie de Parkinson, des difficultés à marcher droit, des déséquilibres intermittents et d'autres problèmes encore, il commence à être temps qu'on pense à suppléer son alimentation. Petit b, le jus de pomme plus rêve. Lorsqu'on travaille physiquement très dur, on manque facilement d'énergie, surtout si on a laissé sa musculature fondre comme la neige au soleil du printemps. Il faut aussi avoir de l'énergie rapidement disponible après le repas et ne pas être obligé d'attendre plusieurs heures avant d'en disposer. C'était là un de mes problèmes des années de transition. Mais un jour, j'ai fait un rêve m'annonçant comment régler cette carence. Après avoir fait le tour de la Terre et avoir vu les gros bouleversements des différents continents d'aujourd'hui, j'arrivais dans la grange de mes parents et là, sur le haut côté, une personne s'apprêtait à me donner un cadeau. Je commençais à observer une pluie de pommes, aussi bien à l'extérieur que dans la grange elle-même. Le toit de tôle ne les empêcha pas de passer. C'était ainsi. Je m'avançais près du bord, du haut côté, et je faisais dévier les pommes sur le plancher où j'étais pour ne pas qu'elles tombent tout en bas. C'était vraiment impressionnant de voir cette pluie de pommes, son importance. Quelques mois plus tard, je commençais à boire du jus de pomme et j'étais loin d'imaginer qu'il faudrait effectivement une pluie de pommes pour combler mes futurs besoins de ce carburant naturel un peu spécial qui allait par la suite me donner de la force dans les premières heures de travail de la journée. Car l'énergie qui en provenait était rapidement disponible après l'avoir bu même en très petite quantité, environ 1,5 once à 2 onces par repas. Le jus de pomme devint vite pour moi une substance essentielle, presque vitale. Il ne m'en fallait pas beaucoup, mais quelle différence! La fatigue chronique et parfois extrême que je ressentais régulièrement s'estompa presque complètement. Elle fut beaucoup diminuée. Il faut dire qu'à moins de 7 $ par semaine pour se nourrir, il fallait presque un miracle, ou tout au moins un rêve, pour rendre la survie en ville possible. 6. L'alimentation. Petit A, l'essentiel. Dans mon cas, l'essentiel nutritionnel se limitait à peu de choses. Du pain, de la crème de blé, des haricots verts, des pommes de terre, des navets, du jus de pomme, de la farine blanche et de la graisse végétale et du riz. Avec cela, je pouvais me confectionner 2 repas par jour, toujours les mêmes, mais cela passait quand même. Si quelqu'un se pose de sérieuses questions sur le résultat, qu'il sache que je suis toujours là pour en parler. Petit B. Recette de base minimale, 2 mains. Je confectionnais le premier repas ou le deuxième en mettant à cuire dans de l'eau un petit morceau de pomme de terre, un petit morceau de navet et 4 ou 5 haricots verts que je réduisais en purée par la suite pour mélanger le tout avec la crème de blé bien chaude et du riz raffiné à cuisson rapide. Des raisins secs remplaçaient le sucre après la 4e année. Je mangeais cela avec du pain, beaucoup de pain, puis je buvais un peu de jus de pomme, après l'avoir introduit dans ma diète en cours de route. L'autre repas était plus simple. Il suffisait de mélanger de l'eau, enfin l'eau de Sainte-Foy, avec de la farine et un peu de graisse Crisco, et de faire cuire cette pâte après l'avoir trouée et découpée en petits morceaux, comme des patates frites plates. Du jus de pomme se rajoutait à cela.